journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Le réveillon de Noël. Et si on parlait de la pluie et du beau temps plutôt que des sujets qui fâchent? Omicron et conséquences, de nouveaux protocoles anti-Covid pourraient être décidés en début de semaine prochaine. Le gouvernement veut éviter tout phénomène de paralysie, surtout dans les hôpitaux. Et pourquoi pas une Covid partie ce soir? Pourquoi les positifs au Covid ne pourraient pas réveillonner entre eux? Béatrice Duguay a joint une Française comme tant d'autres qui sera privée ce soir de dindon marron. Fluidifier le trafic sur autoroute, les péages sans barrière vont se mettre en place progressivement en France.
Notre invité à 7h50, Romain Colucci, bénévole au Resto du Cœur, l'un des 70 000 bénévoles des restos fondés par son père Romain Colucci, invité de France Inter.
France Inter.
Joyeux Noël ou bonne fête à tous, clivant ou inclusif, ne pas se fâcher un soir de réveillon. Pourtant, les sujets de discorde ne manquent pas ce soir autour de la table.
Ce Noël 2021 est décidément un champ de mine et pour mettre le feu, on a le choix cette année. Le pass vaccinal, Éric Zemmour, les fruits exotiques livrés par avion, le foie gras, le homard ébouillanté et le Père Noël, la pire des fake news. Stop. Et si on parlait de la pluie et du beau temps, Sophie Allemand?
Philippe accueille pour les fêtes, alors pour lui la tournure de la conversation repose sur ses épaules et les sujets actuels n'ont rien à faire sur la table.
Si c'est pas le Covid, c'est la politique, donc ces sujets-là on va les éviter pour justement changer du quotidien, passer un bon moment ensemble et pour éviter éventuellement des conflits, hein, notamment pour ceux qui n'ont pas envie de se vacciner ou ceux qui veulent se vacciner.
Il le sait, c'est presque inévitable, il est donc prêt à imposer des règles.
On peut dire dès le départ qu'on évite ces sujets-là, l'ordre du jour, on se met d'accord pour éviter ces sujets-là.
Et si ce mode d'emploi est respecté, tout devrait bien se passer.
Oui, ça se passe bien en général.
Pas tout le temps quand même.
À moins que les affaires familiales n'y mettent leur grain de sel.
Des fois, il peut y avoir quelques embrouilles.
Ouais, de famille.
Glace ou alors
non,
gâteau.
C'est plus histoire de famille. Hein.
Marie, elle, est prête à mettre les pieds dans le plat.
J'ai prévu d'offrir à chacun des membres de ma famille des bouquins féministes. Pour certains, ça va les instruire.
Qui, par exemple?
Mon papa.
L'idée est justement de lancer le débat.
En reparler encore, grâce au petit bouquin. Qui est prévu.
Enfin, Philippe a toujours la solution.
Cette semaine où il a fait beau, bon, même si la pluie arrive. Mais ça...
Ah, du coup, peut-être parler de la pluie et du beau temps, c'est mieux.
Oui, puisque la pluie va arriver pour Noël.
Mieux vaut donc rester dans le basique et bien sûr prévoir de quoi satisfaire tous les régimes alimentaires.
Sophie Allemand, plus de 90 000 cas de Covid en 24 heures en France. Il s'agit du nombre le plus élevé de cas quotidiens jamais atteint depuis le début de la pandémie. D'où cette mise en garde du Conseil scientifique. Si les prédictions sont justes, Omicron en janvier, ce sera plusieurs centaines de milliers de contaminations quotidienne. Alors si on ne veut pas que le nouveau variant désorganise totalement le pays avec les arrêts maladie, il faudra alléger les règles d'isolement comme l'a expliqué hier le ministre de la Santé Olivier Véran. L'hôpital notamment ne peut pas se permettre de tourner au ralenti car dans certaines régions comme en PACA et plus particulièrement à Digne-les-Bains, la situation Hélène Chevalier est déjà très compliquée.
Franck Pouilly vient tout simplement d'annuler ses vacances. Le directeur du groupement hospitalier des Alpes de Haute-Provence doit déjà faire face à 15% d'absentéisme parmi ses troupes et le pire reste à venir. Au manque structurel de personnel et à la surcharge de travail s'ajoutent maintenant les contaminations qui se multiplient dans ces services.
On a eu la semaine dernière à l'hôpital de Manosque une urgentiste qui est devenue symptomatique en pleine nuit, qui n'a pas pu prendre son service le matin. Le service a travaillé en mode dégradé toute la journée.
Impossible dans ces conditions de se priver de soignants à l'isolement pendant une semaine.
Alors on avait deux anesthésistes et deux urgentistes qui ont été qu'à contact. La réglementation voudrait qu'on s'arrête pendant 7 jours. C'est pas vraiment possible actuellement. Si on suivait la réglementation, je fermerais donc le service des urgences et le service de réanimation. Puisqu'en plus, ils seront en service dans les jours à venir. C'est-à-dire impossible de les remplacer au pied levé entre le 24 et le 25 décembre.
Franck Pouilly n'a pas le choix. Pour tenir, il faudra même que les salariés testés positifs mais asymptomatiques puissent continuer à travailler.
On le fait déjà aujourd'hui parce qu'il y a des endroits où on n'a pas de possibilité de remplacement. Si une infirmière de nuit dans un service où il y a une seule infirmière, si elle est asymptomatique et elle accepte de travailler, on la fera travailler.
Le directeur a demandé hier au personnel de ces hôpitaux de faire très attention lors des repas de famille. Nous avons la responsabilité de revenir travailler après les fêtes.
Hélène Chevalier, et à l'heure où l'Équateur a rendu obligatoire hier la vaccination dès 5 ans, c'est une première mondiale. Vaccin et passe sanitaire, plus que jamais la bête noire des manifestants en Guadeloupe, puisque l'obligation vaccinale des soignants qu'ils qualifient de violence a été repoussée au 15 janvier. Nouveau coup de force du collectif des anti-vax et des anti-pass. Après être rentrés de force au Conseil régional, 400 manifestants ont décidé d'y passer la nuit. Gabi Clavier, membre du collectif, déplore le manque de respect et d'engagement de la part des élus. Il est au micro de Jessie Blanquet de Guadeloupe, la première.
Je rappelle que depuis le 17 juillet, nous sommes contre l'obligation vaccinale et contre toutes les violences qui sont faites au personnel de soins, personnel de santé, public, privé, libéraux, mais également contre les pompiers. Et demain matin, contre nos enfants, contre des milliers de Guadeloupéens, 5 000 Guadeloupéens sont concernés aujourd'hui par cette obligation. Ils sont sanctionnés, sont licenciés, ne sont pas payés. C'est quand même pas normal. Dans un pays où il y a 30% de la population active qui est au chômage, il y a 62% de jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a des milliers de Guadeloupéens qui vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 130 000 Guadeloupéens. C'est quand même une situation particulière qui suppose des décisions particulières, qui suppose bien évidemment qu'on prenne en compte ces réalités et qu'on ne nous impose pas un dispositif national, qu'on nous écoute.
Gabi Clavier, manifestant, qui passe donc la nuit à l'hôtel de région en Guadeloupe. Les cas positifs qui se multiplient ont beau bouleverser les plans pour certains, ils n'empêcheront pas de célébrer les fêtes, y compris pour les Covidés. Certains ont décidé de voir le verre à moitié plein et pourquoi pas de se retrouver entre positifs après tout. Un réveillon entre Covidés, c'est ce qui s'appelle faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est l'idée de Marion que Béatrice Duguay a joint au téléphone.
Tant qu'à faire, vu que sinon on est chacune chez soi avec notre Covid, pour le coup j'ai demandé à la pharmacie si c'était contre-indiqué. Elle dit bah, si vous avez tout en même temps et que vous avez aucune note de forme grave, etc., il n'y a pas de contre-indication, sachant qu'on va de toute façon pas faire d'excès parce que même si on n'a pas de symptômes trop graves, on a quand même pas mal mal à la tête, un peu mal à la gorge. Bon, ça va pas être la fête jusqu'au bout de la nuit, clairement. Donc moi, j'ai prévu une butternut rôti farcie au quinoa, au tofu fumé avec des noisettes torréfiées. On essaye quand même de faire bien. Donc on va avoir aussi un risotto aux truffes, on a différentes tartinades végétariennes, des marrons. Enfin voilà, on va faire plaisir quand même, sûrement du chocolat et des choses comme ça.
Et bien sûr, ces malades ne prendront pas les transports en commun.
France Inter, 7h37. Si vous avez l'habitude d'emprunter la 13 ou la 14 pour aller de l'Île-de-France vers la Normandie, cette bonne nouvelle, Laurence Thomas, dans 3 ans.
Oui, 2024, la SANEF lancera les péages sans barrière sur les autoroutes A13 et A14 pour fluidifier donc le trafic, une technologie qui est déjà utilisée à l'étranger sur les 230 km qui séparent Paris de Caen. Les automobilistes doivent actuellement franchir 5 barrières de péage. Ainsi, ces barrières seront remplacées par des portiques capables de détecter le passage des voitures. Kathleen Comte, concrètement, comment ça va marcher?
Si vous êtes déjà abonné au télépéage, pas de changement, votre compte sera débité automatiquement. Si vous ne l'êtes pas, vous pourrez, si vous le souhaitez, enregistrer votre plaque d'immatriculation sur le site ou l'application de la SANEF et payer après votre passage par téléphone, en ligne ou sur une borne physique. Pour ceux qui tenteraient de frauder, les portiques dotés de caméras liront les plaques et vous recevrez ensuite la facture chez vous. Un nouveau système pratique pour Arnaud Quémard, directeur général du groupe SANEF, qui n'y voit que des avantages.
D'abord, un avantage de fluidité, puisque les barrières de péage sont évidemment une barrière naturelle qui fait que l'on s'arrête, dans laquelle il peut y avoir des bouchons et des retenues en barrière de péage. Le deuxième avantage, c'est que ça va générer des économies de carburant. Ce sont environ 9,5 millions de litres de carburant par an qui seront économisés par les usagers de la 13.
Autre argument, celui de l'écologie. Avec la destruction des barrières de péage, la route sera resserrée pour ne laisser que les voies de circulation. 28 hectares seront donc rendus à la nature. Arnaud Quémard.
D'un point de vue des émissions de CO2, c'est 30 000 tonnes de CO2 économisées.
Coût total 120 millions d'euros. Pour le moment, la SANEF n'a pas prévu de lancer ce dispositif sur un autre axe autoroutier. Mais Arnaud Quémard en est sûr, d'ici 2030, la majorité du réseau autoroutier français utilisera cette technologie.
Kathleen Comte, conduire ou jouer aux jeux vidéo, il va falloir choisir. Et oui, parce que c'était possible de faire les deux en même temps aux États-Unis. Tesla va mettre à jour son logiciel pour empêcher les conducteurs de jouer aux jeux vidéo quand la voiture roule. Le constructeur vient de se rendre compte, je cite, que l'option Passenger Play est susceptible de distraire le conducteur et augmente le risque d'accident. On croit rêver. Son avocat avait plaidé l'erreur humaine et le stress, une explication pour avoir confondu son taser avec son arme de service aux États-Unis. Une policière qui avait tué un jeune conducteur afro-américain vient d'être reconnue coupable d'homicide involontaire. Les faits s'étaient déroulés en avril dernier dans la banlieue de Minneapolis. La victime, Dante Wright, 20 ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt tenter d'échapper à la police. La policière risque 25 ans de prison. Elle était une écrivaine légendaire pour le New York Post, une styliste virtuose de la prose, selon le Washington Post. La presse américaine rend hommage aujourd'hui à Joa Didion, décédée des suites de la maladie de Parkinson à l'âge de 87 ans. Journaliste, autrice, elle a raconté son Amérique depuis les années 60, des embouteillages de Los Angeles à la politique américaine. Son essai, L'année de la pensée magique, avait reçu le Médicis en 2007. Loïc Piala.
And where the end of daylight is fast and lost in the blaze of the dropping sun.
Personne n'écrit de la prose mieux que John Didion, avait applaudi un critique américain, ébloui par ses phrases parfaitement agencées, comme dans ses lignes de Blue Nights. Cette star du journalisme littéraire, à l'image d'un Tom Wolfe, s'est fait un nom en décrivant l'Amérique des années 60, la Californie particulièrement, dans ses recueils d'essais Slouching Towards Bethlehem et The White Album. Mon seul avantage comme reporter, c'est que je suis si physiquement petite que les gens ont tendance à oublier ma présence, avait-elle écrit, fière de posséder un sens aigu du détail. Logiquement, John Didion s'est essayé à la fiction. Le sombre Maria, avec et sans rien, évoque Hollywood, que la fille de militaire a bien connu, travaillant sur des scénarios tels que Panique à Needle Park avec Al Pacino et recevant chez elle Warren Beatty et d'autres vedettes. L'essai, L'année de la pensée magique sur son deuil après la mort de son mari, reste l'un des plus grands succès d'une œuvre saluée en 2012 par la Médaille nationale des sciences humaines, une haute distinction remise par Barack Obama.
Je suis surpris qu'elle n'ait pas déjà reçu cette récompense. Après des décennies de carrière, elle reste l'une des observatrices les plus aiguisées et respectées de la politique et de la culture américaine.
Celle qui avait commencé sa carrière en écrivant dans les pages de Vogue était aussi devenue à 80 ans l'égérie de la marque française Céline. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Dans le journal de Laurence Thomas. Merci Laurence. À suivre l'édito politique.